Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mouzimaï au Katanga oriental. J'ai réfuté totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à Radio Capilla, fréquence de la paix. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Chaque année, de nombreux jeunes Africains, même parfois des femmes et enfants, cherchent de voies et moyens pour émigrer en Europe. Bon nombre de ces jeunes tentent de rejoindre l'Europe clandestinement à bord des embarcations des fortunes au péril de leur vie. Parmi les causes de ce flux migratoire des Africains vers l'Europe, on évoque les conflits armés, la pauvreté, la recherche du bien-être au regard du sous-développement qui caractérise encore beaucoup des pays africains. Pour certains analystes, la responsabilité de ces flux migratoires des Africains vers l'Europe est entre autres le fait de la mauvaise gestion de certains pays africains, particulièrement ceux qui sont riches. Il n'y a pas de redistribution équitable des richesses et une bonne gouvernance de ressources du pays. Que pensez-vous du flux migratoire des Africains en général et particulièrement des Congolais vers l'Europe? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi réagir en direct en composant les 081 890 63 30 ou les 081 890 49 69. Jean-Noël Mokondo est à la mise en onde de ce magazine. Blech Ndani est à la réalisation et à la coordination. Au micro, c'est Marcel Gomobala. À toutes et à tous, excellente condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Le 42 502, c'est Radio Capi dans votre téléphone. Par un simple appel au 42 502. Une fois sur le 42 502, vous avez le choix entre différents programmes. En tapant le 311 pour le journal, la revue de presse au 312, le flash info au 313, le 321 pour le sport, la chronique santé au 322 et Banane Doulée au 323. Le 42 502, c'est Radio Capi dans votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42 502, uniquement pour les abonnés Vodacom.
Parole aux auditeurs, pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Encore une fois, merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Encore une fois, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Nous le disons, chaque année, de nombreux jeunes Africains, même parfois des femmes et enfants, cherchent de voies et moyens pour émigrer en Europe. Bon nombre de ces jeunes tentent de rejoindre l'Europe clandestinement à bord des embarcations de fortune au péril de leur vie. Parmi les causes de ces flux migratoires des Africains vers l'Europe, on évoque les conflits armés, la pauvreté et la recherche du bien-être au regard des sous-développements qui caractérise encore beaucoup de pays africains. Pour certains analystes, la responsabilité de ces flux migratoires incombe d'abord aux Africains, même du fait que la plupart des pays africains, la mauvaise gestion de certains pays, particulièrement de ceux qui sont riches, il n'y a pas redistribution équitable de richesses et une bonne gouvernance de ressources du pays. Alors, pour commenter ces sujets, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Maître Dieudonné Tshibwaboua. Il est président de la Fédération de la diaspora congolaise de Belgique, c'est bien ça ?
C'est bien ça.
Oui. Voilà, également avocat au barreau de Bruxelles en Belgique, à Kinshasa et à Kananga. Voilà, nous disons merci à ceux qui se sont déjà enregistrés pour intervenir au cours de ce magazine et surtout merci à ceux qui continuent encore à réagir sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Alors, ces questions, on le sait, on voit dans quelles conditions les Africains cherchent à rejoindre l'Europe pour une meilleure vie. Et bien souvent, c'est la déception. Et on voit même des Africains qui prennent le risque de chercher à traverser la Méditerranée à bord des embarcations des fortunes. Et souvent, le constat est qu'il y a des fois des naufrages, il y a des fois des enfants et même des femmes qui sont comme ça livrées à eux-mêmes, à elles-mêmes. Et d'après vous d'abord, qu'est-ce qui explique ces flux migratoires des Africains en général et des Congolais vers l'Europe?
D'abord, un grand merci de m'avoir invité, Marcel, et aussi bonjour à tous les auditeurs. Aujourd'hui, j'aimerais être praticien, parce que je suis souvent confronté à certaines personnes qui viennent en Europe, les Africains, et aussi les, particulièrement les, un peu plus des Congolais, parce que souvent avec le cabinet que j'ai à Bruxelles, qui a une certaine maturité auprès de la communauté congolaise, beaucoup viennent avec des problèmes liés à l'immigration. Et chacun a son histoire, chacun a sa raison d'avoir immigré. Mais le constat, surtout la majorité de ceux qui viennent, en fait, ce sont, nous, on appelle des réfugiés économiques. C'est pas vraiment des gens qui ont, s'il y en a, évidemment, qui ont fui leur pays pour des raisons politiques, parce qu'il y a plusieurs sortes de migration, d'immigration. Mais souvent, la majorité, ce sont des gens qui ont fui pour avoir un mieux-être, pour avoir une meilleure situation. Parce que leur pays ne leur donne pas les conditions propices pour vivre. D'où, ces personnes, pour la plupart, vont en Europe ou dans d'autres pays occidentaux pour avoir ce bien-être social. Mais malheureusement, vous savez, beaucoup ne remplissent pas les conditions pour avoir les statuts de séjour. Parce que les occidentaux ont bien réglementé les conditions d'accès et d'établissement et de séjour.
Et ils durcissent encore au jour le jour les conditions.
C'est qui est normal. Hein. Vous savez, oui. La politique, je veux parler de l'Europe, la politique européenne en matière d'immigration se renforce par la montée des partis d'extrême droite qui prennent de plus en plus de la place avec un discours accusateur de l'étranger comme étant responsable de la sécurité qui s'est vue dans ces pays. D'où, ils ont renforcé les conditions. Et c'est pas facile aujourd'hui qu'une personne quitte son pays et arrive en Europe pour et puisse avoir facilement un titre de séjour. Ça dépend, parce que je crois qu'on devrait nuancer les types de migration.
Oui.
Aujourd'hui, il parle de migrants choisis, d'immigration choisie. Bon, ce n'est qu'une phrase, mais bon, ça je peux vous expliquer après. Mais la majorité de ceux qui viennent, surtout les jeunes, ils viennent pour des raisons économiques, mais ils se réfugient derrière l'asile politique. Et vous savez, les conditions pour avoir un statut de réfugié sont régies par la Convention de Genève de 1948, et c'est pas des conditions faciles. Il faut prouver réellement que vous avez des craintes de votre pays en fonction des conditions qui sont fixées. D'où beaucoup ont du mal à remplir ces conditions. Parce qu'effectivement, un grand nombre, c'est plus des réfugiés économiques, comme la notion de réfugié économique n'est pas reconnue. Et ils trouvent à se bifurquer vers la notion de réfugiés via d'asile politique. Mais ce n'est pas facile, parce que vous allez voir que beaucoup ont fait beaucoup d'énormes sacrifices. Il y en a qui viennent évidemment par des voies aériennes, mais une bonne majorité viennent aussi par des voies, comme vous avez dit, des embarcations de fortune, mais avec des souffrances inimaginables, incroyables. Vous avez des gens qui ont fait des jours et des jours dans le désert, parce qu'ils viennent souvent par la Tunisie ou la Libye. Et peuvent vous donner des conditions de vie, c'est pas imaginable. Non seulement ça, ils prennent des embarcations de fortune, des bateaux qui peuvent à tout moment chavirer.
On assiste souvent à des cas de naufrage.
Je veux vous dire que la mer Méditerranée, c'est un vrai cimetière. Le jour où on va découvrir tout ce qui est en dessous, on sera surpris. Beaucoup de bateaux chavirent, beaucoup de gens meurent parce qu'ils n'arrivent pas à traverser. Bon, récemment, avec les bonnes conditions climatiques, ça permet quand même à pas mal de migrants de traverser. Je vous donne un chiffre. Hein. Enfin, par exemple, sur la petite île de Lampedusa, qui est une porte d'Europe, c'est une île italienne. En un jour, il y a pu avoir 7000 personnes qui sont arrivées, plus que la population même de cette île. Mais chaque jour, il y a des bateaux qui arrivent. Donc toutes ces personnes fuient les conditions de leur pays. Alors ce que nous déplorons, on se pose la question, pourquoi ces gens fuient ces pays? Est-ce que les politiciens de ces pays-là ne voient pas qu'ils sont en train de perdre la force vive? Parce qu'aujourd'hui, les gens ignorent la nécessité d'avoir les jeunes. La jeunesse est une richesse. Bon, si on met en place simplement des mécanismes qui permettent à ces jeunes d'avoir de l'espérance, de l'espoir, et de pouvoir exceller sur les talents qu'ils ont, vous allez voir que nos pays vont se développer. Aujourd'hui, laisser ces jeunes s'évader, c'est un peu dommage, parce que vous allez voir que parmi ces jeunes, il y a des mines, il y a des pépites, il y a des jeunes qui, quand ils arrivent à un endroit, ils sont accueillis, ils excellent. Et vous allez voir que ces jeunes, c'est simplement une fuite de cerveau de nos pays. Donc nous devons réfléchir comment éviter ça.
Et entre réflexions, il y a des analystes qui estiment que la faute incombe d'abord aux dirigeants africains, surtout des dirigeants des pays riches. On peut pas comprendre comment il y a des pays riches et qui savent pas faire en sorte que leur population puisse vivre dans de bonnes conditions, simplement parce que les richesses sont embrigadées entre les mains d'une minorité.
Tout à fait. La première responsabilité, c'est ceux qui dirigent ces gens, ces pays. Ces pays qui... Moi, je dis... Bon, la richesse est relative. Hein,
oui.
Qui ont du potentiel, qui ont des ressources.
Oui.
Et qui doivent être transformées en richesse. Effectivement, on voit que certains dirigeants ne donnent pas espoir à leur peuple, à leur population. Et d'où ils ne savent même pas capitaliser les ressources qu'ils ont. Vous savez, autant les populations fuient du monde de ces pays-là pour aller à l'étranger, autant certains étrangers viennent dans ces pays-là où les populations fuient parce qu'ils ont vu les ressources et transforment en richesse et deviennent riches. Et c'est une contradiction. Donc nous devons, les dirigeants doivent réfléchir sur une politique d'abord de sensibilisation et surtout donner de l'espoir. Prendre en charge simplement la population. Aujourd'hui, beaucoup de pays sont en faillite. Malheureusement, il y a une banqueroute qui font que ces jeunes n'ont plus confiance dans leurs dirigeants, n'ont plus confiance dans leur pays. Allez voir, si je prends l'état même de notre pays, aujourd'hui la tendance change un peu parce que nous suivons l'évolution. Il y a un petit peu moins de gens qui s'expatent, bien qui fuient, parce que les conditions sont peut-être un petit peu améliorées. Mais nous avons l'habitude de voir des gens qui disent « Ah, moi, quand on est koufa baté kairo », vous comprenez ? Donc les gens n'ont même pas ne croient même pas leur pays. Donc, ce sont toutes ces questions que nous devons mettre en place. Ce que nous déplorons, c'est qu'au niveau de l'Afrique, c'est comme si les dirigeants ne se rendent pas compte de ce drame. Ce drame qui arrive. Je vous dis, ce sont des milliers de personnes qui meurent dans l'eau. Et c'est au niveau des pays d'accueil.
Parce qu'en principe, ça doit les interpeller. Comment des femmes, des enfants,
d'enfants
de risque, de risque énorme, c'est-à-dire qu'ils acceptent de traverser la Méditerranée dans ces conditions et au péril de leur vie. On sait même voir des images de naufrages, des images émouvantes, ça, il faut le dire. Mais apparemment, les dirigeants africains ne sont pas tout à fait sensibles.
C'est incroyable. Le problème, c'est que parce qu'ils ne sont pas concernés directement. Parce qu'ils n'ont pas des membres de leur famille qui se retrouvent dans de telles situations. Mais j'aimerais simplement dire que ces personnes qui meurent dans ce genre de conditions, ils ont aussi des familles. Il faut penser à ça. C'est le côté humanisme-là qui manque aux dirigeants africains. Et il n'est pas normal de considérer l'état d'extrême pauvreté qui est en contradiction totale avec l'état d'extrême richesse de certains. C'est juste un petit groupe de personnes qui dirigent. Donc, le paradigme doit changer. Vous avez parlé de richesse. Oui, s'il y a une redistribution équitable de la richesse, s'il y a une justice sociale, on va éviter ça. Vous savez, ce que nous vivons aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Si nous regardons la période juste post-coloniale, dans les années 60, il y avait un autre type de migration. Les gens allaient en Europe, du moins pour l'Europe, même les États-Unis. Ce n'était pas pour des questions liées à les besoins économiques, c'était plus pour apprendre, c'était des besoins d'études. Vous comprenez ? Aujourd'hui, bon, avec l'évolution, après, on commençait à avoir ceux qui migraient pour des raisons politiques, après économiques. Mais au départ, ce n'était pas le cas. Vous savez, je veux vous dire même chose. Dans les années 60, je veux parler du cas de la Belgique, qui était le pays colonisateur, avait même sollicité auprès du président de l'époque, Mobutu, pour que certains Congolais puissent aller en Belgique pour travailler, parce qu'ils avaient un problème de un besoin de main-d'œuvre dans le charbon. Ils ont même sollicité si le président Mobutu pouvait envoyer des Congolais pour les aider. Mais le président a dit non, parce que le Congolais avait une certaine, à l'époque c'était encore le Congo avant le changement du Zaïre, avait une certaine autorité, avait un certain respect, ne pouvait pas simplement aller travailler dans le charbon, dans les mines de charbon. Et d'où la Belgique a dû se retourner vers le rhum du Maroc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Marocains aujourd'hui qui sont venus dans ces années-là. Mais le Congolais n'allait pas... Donc vous rendez compte que pour des raisons économiques, le Congolais n'allait pas s'expatrier vers la Belgique. Ce qui est contraire aujourd'hui.
Parce que les choses marchaient plus ou moins
bien
déjà
choses ici. Allaient, on n'avait pas besoin d'aller se réfugier économiquement là-bas. Parce qu'on avait su tout ce qu'il fallait.
Voilà. Voilà, Maître Dieudonné Tshiboba, je reviens à vous parce que vous êtes également président de la Fédération de la Diaspora Congolaise en Belgique. Vous allez également nous dire qu'est-ce qui se passe au niveau de la Fédération. Est-ce que vous essayez de réfléchir par rapport à ces genres de sujets, voir comment conscientiser et les populations et les gouvernants par rapport à cette question de migration. Alors, on va déjà nous tourner vers le standard. Il y a Franck qui nous appelle depuis Vienne, en Autriche. Je rappelle, si vous êtes également intéressé, vous voulez intervenir, je rappelle le numéro des contacts, c'est les 081 890 63 30 ou les 081 890 49 69.
Festival Sans Voix pour la Paix. Ensemble, faisons vibrer nos voix au rythme de la paix en RDC. Le 22 octobre, à partir de 12h, au village Iossi à Goma, en marge de la célébration de la Journée internationale de la paix. Au menu, un grand chœur de 100 choristes qui chantent à l'unisson pour la paix au Congo. Et une collecte spéciale sera organisée en faveur des déplacés de guerre. Le festival Sans Voix pour la Paix Gospel Mass Choir for Peace, célébrant tous ensemble la paix par le gospel pour un Congo fort et prospère.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Bienvenue sur nous. Vous nous rejoignez sur cette fréquence de la paix. Vous suivez en ce moment votre magazine des chants citoyens. Parole aux auditeurs. Nous abordons la question de flux migratoires des Congolais, des Africains qui prennent autant de risques pour émigrer en Europe à la recherche du bien-être. Nous avons déjà en ligne un premier auditeur. C'est Franck qui nous appelle de Vienne en Autriche. Bonjour Franck.
Bonjour notre frère Marcel, bonjour à vous tous, bonjour à tous les auditeurs de la radio et aussi à votre invité du jour, M. Tshiboba.
On vous écoute, Franck, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup. Oui, par rapport à la thématique, à la compréhension de cette thématique telle que vous l'avez formulée et postée, il y a lieu de reconnaître d'abord que chaque citoyen du monde, chaque citoyen averti de ce monde est libre dans ses mouvements et a aussi sa liberté pour choisir ses options de vie. Et en se choisissant ses options de vie, il peut lui arriver de se décider pour aller s'installer dans n'importe quel coin du monde pourvu qu'il remplisse les critères et les préalables pour s'installer là-bas. Et par rapport à la compréhension de ce que nous voulons atteindre tous aujourd'hui, je crois que là, je vais rejoindre votre invité du jour, c'est de savoir dans quelles conditionnalités et sur base de quelles contraintes, sur base de quelles réalités, certains citoyens du monde se bousculent-ils, se voient obligés de quitter leur pays pour envisager d'atteindre les pays du Nord ou les pays de l'Occident. Oui, les causes, les motivations, il y en a. Et si on doit se mettre à les analyser, donc on peut les classifier selon les rubriques. Votre invité du jour venait de l'expliquer. Mais par rapport à ce qui concerne un certain nombre de citoyens d'un certain nombre de pays tiers-mondistes, c'est plus pour des raisons de survie. Moi, personnellement, quand je vois comment ça se passe, je me dis l'épanouissement de l'homme, l'épanouissement de toute personne avertie, c'est comme l'épanouissement d'un petit poisson ou du poisson. Le poisson ne peut pas tenir là où il n'y a pas d'eau. Donc, un poisson pour tenir, il a besoin d'un espace où il y a un peu d'eau. Et c'est là où le poisson peut vraiment s'épanouir. Et il en est de même aussi de l'épanouissement de l'homme. Donc, l'homme a des aspirations, il a des ambitions. Et il a aussi besoin de se retrouver dans un espace où il lui est donné des opportunités pour s'affirmer, pour réaliser, pour atteindre ce qu'il a lui comme ambition. Mais dès lors qu'il se rend compte que là où il doit les atteindre, on ne les lui donne pas, il cherche à aspirer pour aller en dehors. Et c'est là où les grands problèmes, et c'est la question que moi je me suis personnellement posée, ou c'est la question que je me pose, si les dirigeants politiques qui nous gèrent arrive-t-il à comprendre que le fait de laisser autant de citoyens quitter leur pays et partir, ils favorisent déjà ipso facto la fuite des cerveaux. Parce que avec ce qui se passe là, les gens arrivent d'abord dans un autre pays, parfois dans des conditionnalités assez difficiles. Il doit chercher à se retrouver, à se réintégrer. Et en cherchant à se réintégrer, il peut lui arriver d'échanger même d'identité. Je crois que votre invité du jour, en sa qualité, en sa casquette de juriste, il est encore plus mieux outillé que moi pour vous dire comment ça se passe là. Et là où il y a parfois des problèmes, vous allez voir que quelqu'un qui a fait, par exemple, les droits au Congo, qui a fait l'économie, qui a fait le journalisme, qui a fait la médecine, quand il arrive ici pour des raisons de survie, il doit d'abord renoncer à son identité actuelle pour se donner une identité de survie. Et du coup, tout ce qu'il avait fait là, ça reste, donc ça tombe. Et maintenant ici, là où il arrive, on doit peut-être chercher à lui donner une opportunité, faire une formation. Ils sont rares ceux qui arrivent comme médecins, comme juristes qui continuent. Ce sont parfois des cas rares. Mais dans la plupart des cas, jusqu'à 60, 65, 70%, on arrive, vous changez d'identité, vous arrivez, vous devez vous donner une autre identité pour avoir accès à un séjour légal. Et tout ça, ce sont des problèmes. Et je crois que si nous devons être brefs, c'est à cause de la mauvaise gouvernance, c'est à cause de la mauvaise politique, c'est à cause des inégalités qu'il y a là chez nous. Il y a quelques jours ici, vous avez organisé des émissions sur la grève des médecins, la grève des enseignants. Mais mon ami Marcel, un médecin congolais qui n'est pas bien payé chez lui, un médecin congolais un magistrat congolais qui est presque chosifié, qui est presque réduit à la plus simple expression, s'il lui arrive de se trouver une opportunité pour aller en dehors du pays où il peut travailler, il peut prester comme médecin et il peut avoir droit à un salaire décent, quelle est l'opportunité qui lui sera encore favorable? C'est à ce niveau-là que nous devons encore revoir, nous devons demander à nos hommes politiques de comprendre pourquoi ils sont là. S'ils se disent politiciens seulement pour eux-mêmes, peut-être c'est là leur conception de la politique, mais s'ils sont politiciens pour organiser la vie nationale, pour organiser la répartition des revenus au niveau national, ils devaient aussi penser à servir tout le monde. Parce que dès lors qu'ils ne penseront qu'à eux-mêmes, ces problèmes...
Franck, j'aimerais vous poser cette question qui me revient et qui me vient en tout cas tout à coup à l'esprit. Qu'est-ce qui fait que les dirigeants africains ne savent pas chercher des voies et moyens pour faire en sorte que leur population vive dans des conditions qui répondent aux richesses potentielles de ce pays? Qu'est-ce qui, parce que au fil des années, on répète toujours la même chose. Des fois, vous allez entendre dire que c'est peut-être les Occidentaux tolèrent certains gouvernements qui sont de nature dictatoriale, ou bien c'est la faute aux Occidentaux. Et on entend d'autre part dire non, c'est plutôt eux-mêmes les Africains qui savent pas bien gérer leur pays. C'est une minorité qui prend toutes les richesses. Comment vous réagissez par rapport à ces genres de propos?
Oui, merci beaucoup pour la question. Ça relance encore le débat. Selon moi, je trouve que la faute, c'est d'abord du côté de nos dirigeants. Il leur manque de la bonne volonté politique, de la détermination, du bon patriotisme. La plupart de ces dirigeants-là, ils viennent ici en Europe, ils sont en Amérique, ils sont partout dans le monde. Leurs enfants sont ici, ils voient comment la vie s'organise ici. La plupart de ces dirigeants, nous les connaissons, ils ont étudié ici, il y en a qui ont travaillé ici, il y en a qui ont vécu ici, ils voient comment ça se passe. Mais quand ils arrivent chez nous, ils font le contraire. Quand on va dire que c'est à cause des Occidentaux, c'est vrai que il y a parfois des situations où on peut placer un dirigeant dans des contraintes où il ne lui est pas permis de bien faire. Mais moi, je crois que personnellement, on ne doit pas toujours aller se cacher derrière les autres. Parce que parfois, pour des choses élémentaires, pour donner des salaires décents aux médecins, aux enseignants, aux magistrats, aux mécaniciens, aux policiers, aux soldats, je ne pense pas que c'était chef d'État français, c'était le premier ministre belge, les chefs d'État américains qui interdiraient à nos ministres nationaux des finances, des budgets, d'allouer des salaires décents à leurs collaborateurs. Je ne pense pas que ce sont les autres qui nous interdisent d'avoir un appareil judiciaire qui fonctionne convenablement. Je ne pense pas que ce sont les autres qui nous demandent de nous mettre à exploiter nos propres frères à travers des inégalités qui leur sont imposées partout. Moi, personnellement, j'ai toujours dit que ça, c'est un problème de conception et de mentalité et aussi d'abord un problème d'humanité. Parce que quand tu sais que moi, je veux bien m'épanouir et que je veux travailler pour mon pays, vous allez chercher à respecter aussi les autres qui travaillent avec vous. Mais qu'est-ce que nous voyons? Donc, on a par exemple un pays, il y a seulement une minorité de citoyens qui se répartissent jusqu'à 80% des revenus nationaux. Avec notre budget, vous allez voir que le budget est voté, mais dans ce budget-là qui est voté, les députés, les parlementaires qui en sont l'autorité, savent que il y aura 3 mois, 4 mois d'un paiement des médecins, des enseignants, des autres là. Ils laissent passer ces budgets-là. Ils savent que, par exemple, telle catégorie de citoyens vient de présenter des réclamations. Ils veulent ceci, ils veulent cela. On ne leur accorde pas, mais le budget passe quand même. Mais comment on peut se développer dans un pays où il y a autant d'inégalités sociales? Comment on peut se dire un même pays, un député touche 21 000 dollars, un professeur d'université n'a même pas 3 000 dollars. Comment on va se développer dans un pays? Un ministre, il a parfois plus de 40 000 dollars. Un magistrat n'a même pas 10 000 dollars. Comment on peut se développer dans un pays où ceux qui votent le budget, ils ont tout, mais les policiers, les soldats qui veillent pour notre sécurité, ils sont chosifiés. Comment on va se développer dans un pays où l'enseignant qui doit former les cadres de ces pays-là est réduit à sa plus simple expression. Marcel, on va nous dire que même pour payer les enseignants, il faut que l'ordre nous vienne de Washington, il faut que l'ordre nous vienne de Londres. Non, c'est un problème interne, c'est un problème de vision et de conviction politique. Nous avons une classe d'hommes politiques qui ne pensent d'abord qu'à eux-mêmes. C'est l'égoïsme et moi j'appelle ça c'est le manque d'humanité vis-à-vis des autres.
Voilà.
Dès qu'on aura cette humanité-là vis-à-vis des autres, beaucoup de choses iront. Il suffit seulement d'avoir un peu de bonne volonté politique, du patriotisme, de la détermination et aussi une certaine fierté nationale pour admettre que je ne peux jamais être heureux tout seul. Pour être heureux, je dois aussi voir les autres heureux et le développement. C'est seulement dans ce contexte que les histoires pourraient aller. Sinon, on crée des frustrations et en créant des frustrations, on se détruit soi-même.
Voilà,
c'est un peu ça la réponse.
Voilà, que je peux donner. Merci beaucoup Franck. Donc pour vous, il faut beaucoup de patriotisme et surtout des volontés politiques et de l'amour du pays. Merci Franck d'avoir réagi depuis Vienne en Autriche. Je m'en vais rapidement lire quelques réactions sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Il y a cette réaction d'Olivier Caïno depuis Kikwit qui nous écrit ceci. En principe, nous devrions avoir honte, nous les Africains, de voir ce problème des migrants prendre cette allure qui peut être interprétée comme une façon de désavouer la gouvernance de la plupart de nos pays. Beaucoup d'Africains préfèrent mourir dans la Méditerranée plutôt que de continuer à lutter désespérément contre la misère dans leur pays où très souvent les autorités brillent par une indifférence indescriptible. Il y a également cette réaction de Siméon. Nous, populations congolaises, nous devons tous travailler pour notre pays, pour le futur de notre pays et surtout pour l'avenir de notre pays. Il y a également beaucoup de réactions et on va le lire au fur et à mesure qu'on va évoluer dans ce magazine. Alors, je reviens à vous, Maître Dieudonné Tshibobwa. Vous avez suivi Franck qui a estimé qu'il faut beaucoup plus de patriotisme, de la volonté politique et surtout l'amour du pays.
Effectivement, ce que l'auditeur a dit n'est pas faux. Mais je vais quand même dire quelque chose pour rajouter et peut-être aussi préciser.
Oui.
C'est vrai qu'on ne pouvons rejeter la responsabilité aux dirigeants, mais pas seulement les dirigeants. La responsabilité peut être partagée. Les dirigeants ont l'obligation de mettre un cadre qui permette aux gens de pouvoir effectivement vivre d'une manière décente. Mais aussi la question qu'on se pose, est-ce que les gens aussi profitent du minimum qu'il y a? C'est ça aussi. Quand vous n'avez même plus d'espérance dans votre pays, vous ne pouvez même pas croire et fournir un effort pour vivre. Ce n'est pas tout le monde qui fuit. Il y a des gens qui vivent dans des terrains hostiles et qui s'en sortent. Et ça, il faut aussi préciser. dans souvent l'art de rejeter la responsabilité sur les autres, mais la question qu'on doit se poser, qu'est-ce que moi je fais avec le peu que j'ai? Vous comprenez? Aujourd'hui, vous pouvez aller à l'intérieur du pays. Il y a des gens qui sont pas allés dans l'immigration, mais qui ont affronté les situations, les conditions propices et qui s'en sortent. Donc voilà. Donc je ne veux pas charger simplement les autorités, je veux interpeller tout le monde.
Mais vous ne pensez pas que ces gens, à la première occasion, ils n'hésiteraient pas de chercher à aller vivre ailleurs?
Non, moi je ne suis pas. Mon avis est partagé.
Oui.
Il y a des gens, quand on parle du sens du patriotisme, il y a des gens qui, à cause de ce sens du patriotisme, préfèrent rester sur place. Il y en a qui peuvent partir. Ça, chacun fait son choix, on ne peut pas condamner. Mais vous serez surpris de voir le nombre de personnes qui étaient étrangères dans des pays occidentaux qui reviennent dans leur pays. Vous serez surpris. Et ça se voit souvent lorsqu'il y a des régimes qui changent, il y a des pouvoirs qui changent. Beaucoup reviennent parce que, vous savez, il y a une expression dans ma langue maternelle, hein, je vais dire en français simplement, qui dit que quand vous êtes chez les étrangers, vous êtes comme assis sur une branche d'arbre. Elle peut couper à tout moment. On n'est jamais mieux que chez soi.
Que chez soi, oui.
Donc beaucoup rêvent de revenir chez eux. Vous comprenez? Il y a des gens qui partent, mais il y en a beaucoup, beaucoup aussi qui ne partent pas. Il y en a qui affrontent l'hostilité. Mais par contre, là, je vais rejoindre l'auditeur tout à l'heure. Je conseille plutôt de réfléchir sur un mécanisme qui permettrait, je parle de pays africains, d'avoir de créer d'abord une classe moyenne et avoir un salaire minimum qui permettront aux gens de vivre dans les conditions requises dans leur propre pays. C'est des conditions de salaire minimum dans les pays occidentaux ne sont pas forcément les mêmes que dans nos pays ici. Avec très peu, on peut vivre décemment. Quand les gens, on sait qu'ils font. Ce qu'il faut, c'est-à-dire manger, faire les études de leurs enfants, ils ont les conditions de logement. Je ne vois pas que les gens vont forcément vouloir aller à l'extérieur. Ici, c'est parce qu'il n'y a rien. Les gens ne voient, il n'y a pas de perspective. C'est pour cela que la plupart veulent s'exporter, veulent aller à l'extérieur. Mais si on crée un minimum de conditions, je crois que les gens vont rester. Je vais vous donner un cas. Un pays qui malheureusement a sombré depuis une dizaine d'années, le cas de la Libye. Si vous regardez, la Libye, c'était à compter au bout des doigts les Libyens qui s'exportaient parce que leur ancien président, qui n'est plus, avait mis en place des conditions minimales qui permettaient à chaque Libyen de vivre décemment. Les gens n'avaient pas besoin d'aller à l'extérieur. Donc, tout ce qu'on demande, c'est avoir les conditions minimales pour que les gens vivent. Des cadres moyens, comme l'auditeur a dit tout à l'heure, les salaires suivis, respectés, pour tout le monde, vous allez voir que ça va changer. On peut changer le paradigme avec peu. Il ne faut pas penser qu'il faut beaucoup. Mais le problème, c'est que nous sommes dans le négativisme qui fait que les choses...
Et surtout les Congolais. Hein. Les Congolais n'est quoi plus en rien, n'est quoi plus en personne.
Oui, malheureusement, le Congolais... Donc, nous devons redonner aux Congolais les conditions de l'espoir. Vous savez, je veux dire une chose. Aller même à l'étranger, c'est pas aussi facile qu'on le pense. Vous savez combien de ceux qui sont là en immigration, excusez-moi les termes, qui ont pété un plomb, parce que, moi, je m'excuse du terme. C'est-à-dire que les gens ont craqué, parce que les conditions, des fois, sont très hostiles. Hein. On ne pense pas que c'est l'Eldorado, toujours. Il y a des gens qui vivent. Il y a combien ont demandé de revenir chez eux? Parce qu'ils ont vu que la belle étranger, c'était pas aussi facile qu'on le pensait. Donc, il faut toujours nuancer lorsque les gens veulent aller, mais c'est pas toujours ça qu'on s'y attend. Donc là, j'aimerais aussi préciser.
Voilà, on va écouter Blaise Saïdi qui nous appelle depuis Kisangani. Bonjour Blaise Saïdi.
C'est Marcel. Vraiment, je venais de suivre cette émission. Donc je vois déjà que non, les prédécesseurs ont beaucoup parlé. Donc vous verrez bien que non, la situation persiste. Donc vous verrez bien que non, certains analystes qui ont évoqué la responsabilité de ces flux migratoires vers l'Europe, entre autres le fait de la mauvaise gestion, donc je vois bien que non, cet argument tient vraiment debout. Étant donné que le mandataire public qui gère les ressources et les affaires de l'État ne gère jamais avec transparence. Sinon, on n'allait pas connaître ce que nous sommes en train de connaître, comme l'accroissement des émigrés. Puisqu'on ne gère pas avec la transparence les ressources et les affaires de l'État. Les causes sont nombreuses, notamment la pauvreté, le chômage, la quête d'espoir, des libertés, d'une vie meilleure, les contextes des élections, les conflits armés. Donc vous verrez bien que non, ce sont les causes qui poussent aujourd'hui que les gens quittent l'Afrique, que les gens quittent la RDC pour aller à l'étranger. Aujourd'hui, nous avons aussi le phénomène que les enfants partent en Europe pour aller étudier. Donc, tout cela, ce sont des conséquences. Donc, ces conséquences, nous disons l'exode des cerveaux, c'est-à-dire fuite des cerveaux, le naufrage à la mer, et ainsi de suite. Ce sont là des conséquences trop fâcheuses. Donc, imaginez aujourd'hui, lorsque les responsables aujourd'hui du pays, ils prennent cette responsabilité d'amener les enfants ailleurs pour aller, de qu'est-ce qu'on cherche. On dit même de non-formation ici. Or, ces autorités, la majorité a étudié ici au Congo, mais on ne vise plus que non qu'on fasse l'essentiel dans les pays pour amener les enfants ailleurs, pour que les enfants viennent faire quoi ici. Donc, vous verrez aussi que non, ce que ces enfants sont en train de faire là-bas, en Europe, dont les travaux qui ne devraient même pas faire ça ici, au Congo, mais pourquoi? Puisqu'ils sont à l'étranger. Puisqu'on voit déjà que non, lorsqu'on est à l'étranger, on va gagner beaucoup. C'est là où il y a la vie. Or, la vie est presque partout, monsieur Marcel. Donc, vraiment, nous demanderons que le mandataire qui gère les ressources et les affaires de l'État, qu'il y ait quand même la redistribution des ressources, sinon c'est un souci vraiment, monsieur Marcel.
Voilà, merci à Blaise Saïdi depuis Kisangani. On n'a qu'une seule ligne, on ne saura pas suivre, en tout cas dans beaucoup d'auditeurs, faire suivre beaucoup d'auditeurs pour intervenir. On va de temps en temps lire des réactions sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Là, j'ai envie de lire la réaction de Jackson Likungola depuis Kisangani. Il nous écrit ceci: l'immigration des Africains en général, l'essai du Congolais vers l'Europe en particulier, émane de la mauvaise gouvernance des pays africains et la République démocratique du Congo n'est pas épargnée de ce problème. Riche en tout, mais la population vit dans la misère. Pour pallier ces fléaux, que nos autorités puissent aussi penser à la population, que cette dernière bénéficie de ses propres richesses, créer des emplois, le système politique congolais ne peut jamais développer la RDC à cause de la mauvaise gouvernance, et c'est ce que je pense qui est à la base de la migration des Africains en général et des Congolais en particulier vers l'Europe. Il y a également cette réaction de Georges Kilangalanga depuis toujours Kisangani. Les causes évoquées sur la pauvreté, sur la mauvaise gouvernance et la mauvaise redistribution de richesses sont des causes réelles qui ne sont pas de la responsabilité des pays européens, plutôt des pays africains eux-mêmes, surtout de leurs dirigeants. Voilà. Peut-être un commentaire avant que je vous pose une question par rapport à vous qui êtes président de la diaspora congolaise de la Belgique. Comment au niveau de la diaspora? D'abord, un petit commentaire par rapport à... Un petit commentaire rapide, parce que Omsinek, il y a un auditeur qui aimerait intervenir. On n'a qu'une seule ligne, allez-y rapidement.
Bon, juste pour dire que, vous voyez, souvent, ça revient à la mauvaise gouvernance. On accuse souvent les autorités. Ça, je n'en discute bien pas, mais je veux dire, j'insiste aussi, qu'est-ce que nous faisons de l'autre côté? Parce que je parlerai tout à l'heure, il y a une forme de migration aussi qui est une migration propre, qui n'est pas une migration clandestine. C'est que les gens oublient. Moi, je suis pour un monde ouvert. Les gens peuvent aller pour apprendre, mais pour revenir aussi aider leur pays.
Mais en toute dignité.
Aujourd'hui, vous savez, il y a des gens qui pensent même qu'avoir un visa, c'est le chemin de la croix. Alors qu'il y a des conditions, il y a des possibilités. Moi, en tant qu'avocat, je peux vous dire que des fois, quand j'ai des dossiers, des gens qui viennent me consulter, même là-bas, à Bruxelles, où j'exerce, je dis, mais pourquoi vous pensez qu'il n'y a que dans la clandestinité que vous pouvez avoir un titre de séjour? On essaie de conseiller aux gens pour être dans la légalité et dans la dignité. Je veux la dignité, il n'y a pas plus que ça, qu'on doit vous respecter. Donc voilà, il faut aussi sensibiliser. Moi, je suis là aujourd'hui surtout pour sensibiliser.
Pour sensibiliser.
Sensibiliser et dire qu'il faut faire attention. Il n'y a pas que l'immigration clandestine, il y a moyen de faire des choses proprement, mais aussi pour redonner de l'espoir à ceux qui ne croient plus dans leur pays, le Congo. Vous savez qu'il y a un effet inverse aujourd'hui. Beaucoup de gens qui sont ici veulent aller là-bas, mais je peux vous dire que beaucoup des Congolais, moi je parle du Congo que je connais bien maintenant,
qui veulent aussi
surtout beaucoup d'enfants des Congolais qui sont nés là-bas, qui connaissent pas ce pays, rêvent de retourner au Congo.
Voilà, on revient à vous, Maître Dieudonné Tshibabwa. On va suivre Kalo Kalonji qui est en Boujimaï. Bonjour Kalo Kalonji.
Bonjour Monsieur le journaliste, bonjour aux Congolais qui aiment leur pays d'ailleurs.
Aux Congolais qui aiment leur, aux Congolais qui aiment leur pays. Voilà, on vous écoute, Carlo Carlos.
Oui, qui aiment leur pays, oui, qui aiment leur pays malgré tout ce que nous vivons. Parce qu'il faut, se contenter de ce qu'on a.
Oui.
Je sais que les postes de flux migratoires, comme vous les avez mentionnés, énumérés dans les sujets, je pense que vous n'avez pas passé à côté. Ce sont des causes réelles que nous connaissons. Mais je vais vous dire une chose. Il ne faut pas seulement voir comme les gens pensent que c'est seulement tout est à responsabilité toujours de l'État et des gouvernements, parce qu'on a cité toujours le gouvernement, c'est tout le monde n'est pas le gouvernement. Monsieur le journaliste, laissez-moi vous dire que tout citoyen est libre de choisir un peu où il veut rester. Mais les grands problèmes, il faut se poser beaucoup de questions. Vous voulez aller quelque part? Ok. Est-ce que vous avez respecté les conditions en termes d'abord des documents, ce qui est exigé partout? Et en dehors de ça, il faut aussi vous demander si les Africains et les Congolais, d'une manière particulière, sont en train de chercher à aller ailleurs. Moi, je me dis que ce sont des jeunes aussi qui sont aussi responsables de leur vie. Pourquoi je le dis? Parce que, vous voyez, même ici au Congo, même ailleurs là, l'homme doit se battre. Moi, je trouve que nos jeunes, à un moment là, veulent toujours des histoires comme des cadeaux. Ils veulent toujours la facilité des choses. Je sais qu'il y a des gens. Moi, je connais quelqu'un qui se retrouve un peu mieux. Je dis un peu mieux, mais qui se rend ailleurs dans des difficultés. Mais quand vous suivez ce monsieur-là, vous vous demandez qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il gagne là où il part. Mais vous vous rendez compte que ce sont des gens comme les touristes tellement, des gens qui aiment toujours aller pour ne rien faire. Moi, j'ai dit, la responsabilité de l'État est là. Mais nos jeunes gens ne sont pas aussi responsables malgré tout. Parce que vous ne pouvez pas dire que ceux qui sont en Europe, ceux qui parce qu'il y a des gens qui partent en Afrique ici,
Mais Calo Kalonji. Mais ces jeunes gens disent qu'ils ne bénéficient d'aucun encadrement de la part de l'État et puis l'État ne leur offre pas des opportunités. C'est ce que ces jeunes gens disent.
Ah, monsieur. Mais vous pensez que quand il passe là, nous ici, l'État congolais nous donne des choses, même quand nous parlons avec vous, parce qu'il y en a qui nous connaissent réellement. Les grands problèmes ici, même ceux-là qui ont étudié, même ceux-là qui n'ont pas étudié. Mais je vous dis, chez les Congolais, c'est la réalité. Je vous dis, dans les faits, je vous dis, c'est vrai. Je suis ici, je suis à Kinshasa. Mais je dis comment les jeunes gens, quelqu'un qui est chez lui, qui ne connaît même pas faire quelque chose, il est là chaque jour, il est là seulement pour des loisirs. Un jeune monsieur. Mais vous savez, c'est là qui quitte même nos provinces. Qui arrive, par exemple, je prends un cas de Kinshasa, qui vient de province, qui arrive à Kinshasa. Mais vous les trouvez bien assis. Parce que c'est là qui est, c'est là de tous ces temps, ici, il ne faut rien. Moi, j'ai juste dit, l'homme doit se battre, vous voulez aller ailleurs. Il y en a qui sont en activité, c'est celle que je disais. Demandez-moi en activité, qu'est-ce qu'ils font votre travail. Mais c'est honteux. Moi, j'ai dit, les jeunes gens qui aiment aller, suivons réellement ce que les lois de ces pays-là exigent, allez-y. Mais je vais demander aussi à l'État. L'État congolais, qu'est-ce que moi je propose? Que l'État congolais, au niveau de notre niveau national, avant qu'un seul monsieur quitte d'abord, moi je me dis, on doit aussi les sanctionner sévèrement. D'ailleurs, vous demandez, vous allez là-bas pourquoi? Même si je cherche à aller, mais comme nous avons nos frontières tellement ouvertes, quelqu'un peut sortir et rentrer comme il veut. Je ne sais pas ce que l'État veut, mais moi, je préfère que l'État congolais puisse commencer d'abord par sanctionner et arrêter ces gens-là avant de nous aller. Vous vous demandez, vous avez quel document? Quand vous allez, c'est pour faire quoi? Ok, mais ça va bien peut-être aller, mais que les laisser aller, des fois, il y en a qui partent pour mourir dans des conditions bizarres. Mais je me dis une chose aussi pour les Africains. Je connais aussi des pays où les jeunes gens là sont allés. Je vous dis, prenez, il y a des pays, par exemple, les pays maghrébins. Mais il y a des jeunes gens aussi qui se sont payés là, quand nous les envions, et aussi qui quittent clandestinement pour aller encore en Europe. Mais je me demande qu'est-ce qu'il y a. C'est ça, l'homme africain d'une manière générale. Mais demandez-vous, il y en a qui quittent même ici chez nous, en Afrique, pour aller en Amérique latine. Dans quel pays? Les pays où ils vivent aussi très mal comme nous. Mais toujours envie d'aller. Je ne sais pas si vous êtes ou quoi.
Merci.
Mais le grand problème, La responsabilité n'est pas de l'État, c'est tout le monde qui a la responsabilité.
Voilà, merci Kalo Kalonji depuis Bougimaï. Une autre réaction sur la page Facebook Parole aux auditeurs, c'est celle de Gaël Fiston Piana. Et il nous écrit ceci, la principale cause c'est la prise en otage de toutes les richesses par la petite classe politique. Dans un pays de plus de 80 millions d'habitants, il y a moins de 20% des Congolais qui vivent heureux. Comment voulez-vous retenir les gens quand ils savent qu'en arrivant en Europe, la vie change comme en un clin d'œil? Nous sommes dans un pays où les paresseux gagnent plus que ceux qui travaillent tous les jours, où les taux du dollar nous fait dégoûter la vie, où les offres d'emploi sont lancées alors qu'ils ont déjà été recrutés. Tant qu'on aura de gouvernement impuissant, ces flux migratoires demeurera. Voilà.
Je pense que les deux auditeurs me rejoignent. Tout à l'heure, j'ai parlé de responsabilité partagée. Il ne faut pas simplement mettre ça sur la charge des dirigeants. J'insiste, les dirigeants doivent mettre en place des cadres, des mécanismes pour que les gens puissent s'en sortir. Mais la question à se poser, c'est que nous-mêmes, la population, que faisons-nous? Ça, c'est important. Alors, maintenant, en ce qui concerne, comme le dit le premier, M. Kalo dit qu'il y a des gens qu'on doit sanctionner. Non, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des gens qui fuient leur pays pour plusieurs craintes. Hein. Donc, il y a l'asile politique qui est encadré, des gens qui sont dans des zones armées, des conflits armés, des gens qui ont des opinions politiques divergentes, qui fuient pour leur vie, pour leur survie. On ne peut pas contraindre quelqu'un de rester à un endroit où il sait qu'il risque pour sa vie. Maintenant, moi je veux dire une chose. Vous savez, quand le nouveau chef de l'État a pris le pouvoir en 2019, il avait demandé à ce que les Congolais qui étaient à l'étranger puissent apporter leur expertise, qu'ils reviennent ici. C'était une demande. Et je peux vous dire que beaucoup ont répondu à l'appel, beaucoup ont été satisfaits, aussi beaucoup ont été déçus. Maintenant, il faut tirer les conséquences. Que faire? Moi, mon conseil, c'est faut aussi faire, je ne parle pas de table ronde, mais c'est faire peut-être un état de lieu. État de lieu de la situation actuelle des Congolais. Est-ce que les gens se rendent compte que nous avons 10% des Congolais, de la population congolaise qui est à l'étranger? Sur 100 millions des Congolais ici, il y a 10 millions qui sont à l'étranger. 10 millions, c'est beaucoup. Et ces 10 millions-là, quand vous regardez, je pense que j'ai déjà donné ce chiffre ici, ces 10 millions soutiennent ce pays régulièrement, annuellement, à plus de 10 milliards de dollars annuels. Ce sont des chiffres qui sont vérifiables. Donc, pour vous montrer que ces gens ont un certain attache à ce pays. Mais comment faire en sorte que ces gens-là contribuent ensemble avec ceux qui sont ici au développement du pays? Parce que nous n'avons que le Congo. Tout à l'heure, vous avez posé la question, que faisons-nous avec la fédération? C'est là où je vais revenir. C'est-à-dire, nous avons comme souhait de mettre en place d'abord une communauté congolaise forte, après avoir un Congo fort. C'est pour cela que nous disons toujours, pour le meilleur, pour tous, meilleur pour un Congo meilleur. C'est ça notre slogan. Nous croyons dans le Congo, parce que c'est l'héritage que nous avons reçu de nos aïeux. Nous croyons dans la force de ce pays. Mais c'est vrai que maintenant, il y a eu pas mal de choses qui n'ont pas permis aux Congolais de pouvoir réellement vivre pleinement de ce pays. Il y a maintenant une nouvelle génération qui se lève et qui pense qu'il est temps que les choses changent pour que le Congolais puisse vivre du bien-être de son pays. Parce que ce pays immensement riche ne peut pas profiter qu'à quelques-uns. Donc mettons ensemble, unissons-nous, travaillons avec ceux qui dirigent et ceux qui ne dirigent pas pour mettre en place ces conditions. Ne condamnez pas seulement l'autre. Posez-vous la question, qu'est-ce que moi je fais? C'est un peu ça. Nous ne voulons pas aller en tant qu'accusateurs, mais nous voulons être des acteurs de développement. C'est un peu ça le but de la fédération. Au-delà de ce que nous disons, nous faisons pour le Congo, mais nous mettons aussi en place le mécanisme d'intégration des Congolais qui vont là-bas, pour qu'ils viennent, qu'ils ne soient pas perdus comme un cheveu dans la soupe. Donc c'est un peu ça notre souci.
Voilà, maître, vous allez répondre la parole, les temps pour nous. De prendre le tout dernier auditeur, Jackson Lee Congola, qui réagit depuis Kisangani. J'en profite déjà pour présenter toutes nos excuses à tous ceux qui s'étaient inscrits pour intervenir. Nous avons eu quelques problèmes de ligne, il n'y a qu'une seule ligne qui marche. Voilà pourquoi vous n'avez pas été nombreux à intervenir. On va prendre le tout dernier, Jackson Lee Congola, depuis Kisangani. Bonjour Jackson.
Oui, bonjour la radio Okapi, bonjour. Je vous appelle depuis Kisangani, province de la Tchopo.
Oui.
Le problème qui se passe aujourd'hui dans notre pays, en ce qui concerne la migration, c'est un problème de la bonne gouvernance. Et c'est un problème là aussi, n'échappe pas notre vie quotidienne. En RDC, nous en avons tous. On a du diamant, on a des cobalt. Mais le problème est que la population vit toujours dans la misère. C'est un problème de la bonne gouvernance. Et nous voulons aussi interpeller à nos autorités congolaises qui ne veulent pas voter des lois qui privilégient la population. Et c'est ça ce qui est à la base pour que les Congolais puissent chercher à aller même ailleurs pour chercher comment vivre. Merci beaucoup.
Merci Jackson Lee Kongola depuis Kisangani. On va également conclure avec notre invité, Maître Dieudonné Tshibobwa. Maître, vous avez dit il y a moyen de bien faire les choses, il y a moyen de mettre frein à ces flux migratoires, mais il faut mettre déjà à l'intérieur de nos pays africains, et particulièrement également aussi en RDC, des mécanismes qui permettent d'assurer les développements de nos populations, et surtout faire en sorte que on puisse ces richesses potentielles dont on parle, qu'on puisse vraiment le mettre à la disposition de toute la population. Ça aidera les gens à chercher à vivre dans leur pays qu'est d'aller ailleurs.
Tout à fait. Vous savez, quand l'humanisme devient le moteur de toute chose, c'est-à-dire le sens même de l'humanisme, on fait des choses non pas pour soi, mais pour l'autre. C'est-à-dire quand je ne dirige pas pour moi, je dirige pour l'autre. Qu'est-ce que je peux mettre en place en tant que dirigeant? Et voilà, donc ce sont c'est ça qui doit pousser justement les gens à pouvoir travailler pour le bien-être de leur population. Être prêt à se priver, à se sacrifier. Si même moi, je suis, par exemple, ministre, député, autre, je peux dire, ok.
Mais maître, pourquoi en Afrique, on n'arrive pas à s'approprier ces principes, qu'on arrive aux affaires, au pouvoir pour servir?
C'est un problème de chaque personne.
Oui.
Comprenez? Je ne peux pas généraliser. Il y a des personnes qui sont valables, ministres, comme je voulais dire, députés, autres, qui sont prêts à se sacrifier pour les autres, mais il y en a qui, malheureusement, quand ils arrivent, ils regardent que leur propre intérêt. Mais un bon dirigeant, un bon responsable ne regarde pas son propre intérêt, mais regarde plutôt l'intérêt de ceux qui dirigent, de ceux qui sont, entre guillemets, sous sa responsabilité. Et moi, j'incite, j'encourage aux dirigeants, africains de regarder le bien-être de leur population et de travailler ensemble avec des mécanismes. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas réinventer la roue. Je vais vous prendre un cas typique.
Rapidement.
Vous prenez un pays comme Dubaï, une province comme Dubaï, vous allez voir comment les dirigeants ont mis en place des mécanismes qui permettent à la population de faire évoluer leur pays. D'où aujourd'hui, la population contribue au développement de ce pays en association avec les dirigeants. Et c'est possible même pour notre pays, que nous aimons beaucoup le Congo, et ayons l'espoir qu'un jour ça ira mieux. Et ce jour-là va bien plus vite arriver qu'on le pense.
Ah voilà, merci Maître Dieudonné Tshibobwa. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération de la Diaspora Congolaise de Belgique. Vous êtes également avocat au barreau de Bruxelles en Belgique, également au barreau de Kinshasa et Kananga. Merci d'avoir été des nôtres. On espère vous retrouver prochainement.
Merci à vous.
C'est par ici que nous mettons un terme à ce numéro du Parole aux auditeurs de ces jours. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Jean-Noël Mokondo qui est à la mise en onde, à Blaise Chindani qui l'a réalisé et coordonné. À la présentation, c'était Marcel Ngomumba. Le plaisir de vous retrouver prochainement dans un autre numéro de votre magazine des gens citoyens. Parole aux auditeurs. D'ici là, bon suivi de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.